Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika.
Galère, galère. Nous sommes le 8 août, nous commençons un peu avant la rentrée, notre émission de l'année. Et aujourd'hui, nous vous présenterons un gros livre. Il s'agit de deux numéros d'une revue écriture. Et c'est la revue de littérature et de langue française. Hiver 2018, été 2019, on est dans les clous. Le titre, Écriture de la Révolution et de la guerre d'Espagne. Vous voyez le rapprochement fait, révolution-guerre d'Espagne. Pour moi, la guerre d'Espagne, c'était un moment, mais je l'avais jamais rétabli dans tout un ensemble. Avant de commencer cette présentation et cette lecture, un conseil. J'ai lu cet été que Maurice Bellet était mort en 2018. Il était membre de la revue Christus de 65 à 85. Il a été un des inspirateurs d'un grand renouveau dans l'Église catholique et d'une façon plus générale la chrétienté au point de vue international. Et le livre qu'il a fait connaître, qu'il a sorti, ça s'appelle « Le Dieu pervers » en 1979. Je ne peux pas vous en dire plus, mais certainement c'est trouvable en bibliothèque. Peut-être qu'il en reste des exemplaires, étant donné qu'il est mort l'an dernier. Voilà, Maurice Bellet, « Le Dieu pervers » 1979. C'est le Dieu pervers, c'est le Dieu qui a été enseigné dans les catéchismes à des générations d'enfants, mais ce n'est pas du tout le Dieu en lequel croit Maurice Bellet. Et après cela, tout de suite, je vous présente le livre « Écriture de la Révolution et de la guerre d'Espagne ». C'est 80 ans après la grande vague de 500 000 réfugiés, qu'on appelle aussi Retirada, en 1939, les réfugiés sont venus chercher l'asile en France, et c'est en l'honneur de ces 80 ans que les auteurs, deux femmes, ont dirigé ce numéro de revue. Il s'agit de Geneviève Dreyfus-Armand et de Odette Martinez-Mallet. Quelques mots sur justement les auteurs. On se doit bien d'en parler, parce que les vrais auteurs, c'est ceux qui vont témoigner, que vous entendrez. Elle est aujourd'hui conservateur honoraire. Elle s'est fait connaître par son livre « Les camps sur la plage, un exil espagnol ». Il s'agit d'Argelès, et elle a écrit cela avec Émile Temim, que nous connaissons, qui est mort maintenant, en 1945. L'autre auteur de ce livre aux éditions Rive-Neuve, Collection Continent, c'est Odette Martinez-Mallet. Elle a d'abord été enseignante en lettres et elle est née en 1955. Elle est devenue conservateur. Elle a fait une thèse de doctorat sur la transmission des mémoires des guerres, des guérillas antifranquistes. Elle est maintenant maîtresse de conférence à l'université Paul-Valéry Montpellier, et elle a aussi fait des films. Voilà pour ces deux dames que nous remercions d'avoir fait ce grand travail de collecte. Et les auteurs maintenant, ce sont ceux qui racontent l'expérience de leurs parents, comment elle leur a été transmise, c'est ce qui les intéresse. Alors il y a des fidélités, des esquives, des ruptures dans ce chemin de la mémoire, et ces différentes façons de transmettre ou de ne pas transmettre ont jalonné leur parcours. Le livre est composé de 19 témoignages. Évidemment, nous ne pouvons pas vous les lire tous, mais nous en avons choisi trois qui nous ont aussi paru très significatifs. Il faut dire aussi deux choses encore, c'est qu'il y a une seconde partie dans le livre. Il s'agit de témoignages d'écrivains et de cinéastes qui sont issus ou non de familles de réfugiés espagnols, et ils expriment comment Ils ont travaillé dans les archives privées et commentent les silences, leur ont autant appris que les paroles de ceux qui ont parlé. Et ils deviennent, dit-il, ces silences, des matériaux de leur création artistique, parce qu'on passe maintenant à la création artistique. Et c'est particulièrement vrai de Eva Léger, dont vous entendrez le témoignage. Il faut dire un mot aussi des illustrations. Les illustrations sont le fait de documents qui ont été trouvés par les archives et aussi de peintures. Je vous recommande la vigoureuse peinture où on voit une femme brandissant un drapeau sur la première première couverture. Et avant de prendre les témoignages, un peu d'histoire. Je me suis rendu compte que ça ne nous ferait pas de mal à moi et à vous aussi. Alors, c'est en 1931 qu'est proclamée la Seconde République espagnole, qui durera jusqu'en 1933. C'est une coalition de gauche, mais à partir de 1935, il y a à la Chambre une majorité de droite. Et en 1934, c'est l'insurrection des Asturies et le Front populaire, Frente Popolare, et aussi Front populaire en France en 1936. L'indication historique se fait beaucoup plus précise. Juillet 1937, coup d'État militaire conduit par Franco. Et ça a été d'une grande rapidité, d'une grande violence. En 19, réaction populaire au soulèvement militaire dans plusieurs régions industrielles et dans plusieurs villes. Et en été 36, prise de Guipuzcoa, région de San Sébastien, par les franquistes, annonce de la non-intervention de la France. Et en 37, c'est Guernica, le bombardement par la Légion Condor. En 38, c'est la fin du Front populaire, le décret d'arrêt de la collaboration de la France. 39, prise de la Catalogne, prise de Madrid, et du 5 septembre, début de la Seconde Guerre mondiale. Voilà comment s'articule ce mouvement, c'est la fin de la guerre d'Espagne et ce qui se passe ensuite. Mais c'est pas fini. 1942, création de la Fédération des guérillas de Léon Galice. La lutte contre Franco n'était pas terminée, vous entendez. En 1944, opération de reconquête dans le Val d'Aran. 1945, début de la en France du statut politique des exilés, et c'est la capitulation de l'Allemagne, mais c'est pas pour autant que les exilés vont avoir la vie plus facile. 1950, interdiction des organisations communistes espagnoles en France. 51, établissement de relations diplomatiques France-Espagne de Franco. 55, admission de l'Espagne de Franco à l'ONU. 61, interdiction des journaux espagnols, Anar et Socialiste. 1963, interdiction de la Fédération ibérique des libertaires. 70, procès de Burgos. 74, puis Gantich, le dirigeant, est garrotté. Et 75, cinq militants sont fusillés. Et c'est la mort de Franco. C'est ainsi que se termine le bref rappel historique sous forme de date. Excusez-moi si c'était un peu difficile, mais c'était important de voir comment s'articule ce qui se passe en Espagne avec ce qui se passe en Europe et dans le monde entier avec la Seconde Guerre mondiale. Et je reviens sur les illustrations. Il s'agit d'archives personnelles des auteurs et je voudrais citer le livre de Mariano Otero, La Retirada, et Helios Gomez, Díaz de Ira, Les Jours de Colère, qui ont mis l'histoire de la guerre d'Espagne dans nos consciences. Et tout de suite la première lecture. La première lecture, oui, voilà, c'est celle de Odette Martinez-Mahler, qui est non seulement directrice de l'ensemble des choses, mais aussi celle qui porte un témoignage. Et le titre de son témoignage, « Sinueuse mémoire d'une guérilla ».
Fille de réfugiés politiques, j'ai grandi dans une Espagne imaginaire, un pays perdu et désiré, enfanté par le rêve et l'oubli de mes parents. Les signes de l'Espagne républicaine exilée ont envahi l'avant-scène de mon théâtre d'enfant. Mais l'image de la résistance armée au franquisme, à laquelle toute ma famille a participé jusqu'au début des années 50, est restée à mes yeux très longtemps brouillée. Une mémoire cachant l'autre, en quelque sorte, un peu comme s'emboîtent et disparaissent les matrioshkas, ces poupées gigognes russes que mes parents, militants communistes, aimaient tant. En effet, mon père ne commence à me raconter des pans de sa guérilla que très tard. J'approche alors de la quarantaine. J'entrevois alors comment la mémoire empêchée de ce combat a contribué à dessiner les formes et les blancs du récit familial sur la guerre d'Espagne et ses suites. Encore plus tard, je comprendrai que les enchâssements de cette mémoire matrioshka ne doivent rien au hasard et que l'effacement des traces de cette lutte armée est le produit d'une construction de silence, une certaine histoire que je n'ai pas fini d'exhumer. Une Espagne à Paris. Au cœur du quotidien, l'Espagne absente hante le monde parisien de mon enfance et de mon adolescence. C'est d'abord la musique continuelle du castillan, ma langue maternelle, celle des jeux, des cris de joie et de colère, celle des émotions et des sensations, celle qui résonne dans les voix de mes proches. Comme tous les enfants d'exilés, je baigne dans un mélange de langues et sans m'en apercevoir, je passe d'un idiome à l'autre. J'entends comment l'accent castillan fait tanguer la langue française de mes parents. Je l'entends surtout lorsqu'ils parlent devant des tiers. Je devine sur le visage de ces derniers l'effort pour comprendre, ajuster les mots. J'entends comment ça hésite et ça flanche quand ils parlent cette langue qui n'est pas la leur et qui devient la mienne. Enfin, j'entends aussi qu'ils n'arrivent pas à prononcer le « e » muet du prénom qu'ils m'ont donné, Odette. J'apprendrai beaucoup plus tard à quelle fidélité je dois le choix de ce prénom, pour eux si exotique et si difficile à prononcer. Et j'attendrai l'hiver 2002 pour aller à la rencontre d'Odette Esther, cette militante anarchiste, journaliste à Franc-Tireur, qui, en 1952, avec son compagnon José Esther Borras, et sous couvert de la Fédération espagnole des déportés et internés politiques, la FEDIP, a sauvé mon père du garrot, au pays du Caudillo. En attendant, peu à peu, je deviens française. Ma langue première s'assourdit, ou plutôt elle s'enfouit comme le font les rivières qui empruntent quelquefois un lit mineur, avant de ressurgir, tout à coup, à des centaines de kilomètres, sous forme de surprenantes cascades. Née apatride, de parents apatrides, je deviens juridiquement française à 10 ans. Mes parents ont eu la bonne idée de demander ma naturalisation. Je pourrais donc passer le concours de l'éducation nationale quand j'aurais choisi de faire des études de lettres pour devenir professeur de français. Comme tous les enfants d'exilés, convaincus d'être appelés à vivre sur une terre provisoire, j'ai eu le sentiment de séjourner sur un bouger de frontières. Mais le pays convoité par les parents ne s'inscrivait dans aucune géographie tangible. Il miroitait à l'horizon d'un projet politique sans cesse différé, un peu comme une cinquième saison de l'histoire dont les noms ont varié au fil des ans. Le mot de révolution étant, dans la tribu communiste où j'ai grandi, tombé en désuétude vers le milieu des années 50, au profit du mot démocratie. Quoi qu'il en soit, en attendant la mort de Franco, qui annoncerait le jour du grand retour, il s'agissait de résister, à Paris comme ailleurs, contre un régime de terreur.
Voilà le témoignage de quelqu'un qui vit son exil et qui vit son exil en France. Ah, elle termine par une anecdote amusante, un souvenir dont elle n'a pas souvenir, mais son père le lui dit. Il l'emmenait, elle et sa sœur, distribuaient des tracts. Et c'était le dimanche. Elles avaient de jolies petites robes blanches avec des jupons en volant. Et dans les jupons étaient cachés des tracts. Et elle dit, c'est comme ça que j'ai le souvenir de ce froissement. Et c'est comme ça que mon père a pu me parler. Écoutons donc. Et elle insiste, vous avez remarqué, sur la question des langues. On y reviendra avec le témoignage de Toscaïès. Et maintenant, une autre femme, Sonia Marzeau, une mémoire familiale. Vous voyez comme ça va être différent. Alors voilà, je ne trouve plus ma page. Si, page 167. Donc, 168, vas-y.
Sonia Marzeau, mémoire familiale. Du plus loin qu'ils me reviennent, un sentiment d'inconfort et de fierté. Des histoires familiales mêlées influencent mon ressenti d'une mémoire maternelle à une mémoire paternelle, l'une prenant le pas sur l'autre au gré des lieux de vie. Les villes marquent l'histoire et les mémoires. De la petite enfance, je garde des souvenirs d'une grande demeure, Bordeneuve, près d'Auze, dans le Gers, qui servit de refuge à la famille maternelle, parisienne, d'origine juive, venue d'Alsace et de Lorraine pendant la guerre, et d'accueil pour la famille républicaine espagnole en 1948. Mon grand-père, Robert Rambarc, grand-père maternel donc, considérant que sa famille avait eu la chance d'échapper à la déportation, n'a pas voulu de dédommagement, ni réintégrer son appartement qui avait été occupé. Après plusieurs déménagements dans des immeubles parisiens ayant appartenu à des amis déportés, Robert Rambarc décide de s'installer à Bordeneuve, dans le sud-ouest. Il était ingénieur chimiste et appartenait à l'Union rationaliste de France. Ainsi, de Parisiens, ils deviennent provinciaux. C'était difficile pour sa femme, Sophie, plutôt mondaine et artiste. La famille Rambarc a passé les années d'occupation allemande dans le sud de la France, entre Bordeneuve, Aix-en-Provence, Grenoble, parfois ensemble, souvent séparés. Philippe, l'aîné des enfants, avait rejoint de Gaulle à Londres dès 1940. Ma mère, Jeannine Rambarc, et son frère Pierre se sont engagés dans la résistance dans le Vercors à Dieulfi en 1943-44. Elle était agent de liaison et Pierre restait dans le maquis. Après la guerre, Jeannine et Pierre étaient un peu perdus. Annie Gastala, une amie de Jeannine, lui proposa d'aller à Combloux où se trouvent ensemble, dans un sanatorium, des jeunes gens de toute l'Europe qui avaient besoin de soutien moral. C'est là que mes parents se sont rencontrés. Jeannine, séduite par la figure héroïsée du républicain espagnol, et Léo, attiré par la petite juive. Mon grand-père, maternel, catalan-espagnol, Francisco Marzeau, ancien aide-médecin à Badalone, était médecin dans les différents camps de concentration français, les camps de concentration espagnols en France avant-guerre, Argelès-sur-Mer, Agde, Brame, Noé, Toulouse. Socialiste franc-maçon, condamné à mort par Franco, il parlait une langue intelligible seulement par nous, un mélange de catalan, de castillan, de basque et de français. Le 5 février 1939, le père socialiste et le fils communiste se sont retrouvés au camp d'Argelès. « Que faute ça qui ?» Et ils sont restés tout le temps ensemble, Léo aidant Francisco à l'infirmerie des différents camps. Ils se disputaient beaucoup politiquement. À la fin de la guerre, ils deviennent des réfugiés apatrides. Et l'histoire de l'errance de la famille française rencontre l'exode de la famille catalano-espagnole par l'union de Léo et Jeannine. Mes grands-parents espagnols sont accueillis par mes grands-parents français à Bordeneuve en 1948. De nombreux amis et copains de résistance se retrouvaient là aussi, et je garde le souvenir de grandes tablées. Très jeune, nous étions imprégnés par le culte de l'étranger et de la résistance. Passionnés de pédagogie, Léo et Jeannine ont suivi un stage avec Célestin et Élise Freinet et ont décidé de devenir enseignants. Léo était déjà instituteur de la République espagnole en 1938-39, influencé par Francisco Ferrer y Guardia. Les deux familles vivaient au milieu des livres. Les bibliothèques recouvraient les murs. ce qui impressionnait beaucoup les copains. Dans les années 50, mon père est allé de ville en ville au gré des nominations comme professeur d'espagnol. Tulle, Mauriac, Villefranche-de-Rouergue, Périgueux. Bordeneuve restait le havre de paix, point de chute pour les enfants, aux bons soins des grands-parents. À partir de 1954, Jeannine a commencé sa carrière d'institutrice. Nous sommes ensuite arrivés à Sarcelles en 1957. J'avais 6 ans. Léo venait d'être nommé au lycée Buffon à Paris. Nous habitions tous ensemble, les 5 enfants, avec les grands-parents espagnols. Ma mère allait travailler en vélomoteur à Villiers-le-Bel et Paquita l'aidait pour s'occuper des enfants et de la maison. On discutait beaucoup de politique. Les réunions du PSU à la maison et ailleurs ont succédé aux réunions du PCF. La voix du père dans les grands thèmes et les actions de la mère sur le terrain, le MRAP, le MCAA, la LDH, l'amicale laïque, l'engagement syndical à l'école émancipée. En 1962, les pieds noirs, essentiellement juifs, sont arrivés, très nombreux à Sarcelles, d'Algérie et de Tunisie. Je me rappelle l'ambiance tendue, liée à des menaces de l'OAS, des amis de mes parents qui ont été plastiqués, la peur des parachutistes. Plus tard, en 1967, la guerre des six jours, les insultes de certains qui nous traitaient de renégats. J'ai été sensibilisée très tôt à l'injustice vécue par le peuple palestinien. La confrontation avec les défenseurs d'Israël était très violente. Je me souviens d'une poursuite par le sioniste du Bétar après un meeting du Metzpen en soutien aux Palestiniens. Par ailleurs, ma grand-mère française d'origine juive, profondément athée, méprisait les croyants et était hostile à l'État d'Israël. Bien que consciente d'avoir échappé à la déportation, elle avait perdu toutes ses connaissances et amis parisiens et elle était étrangère à l'esprit de communauté.
Voilà un témoignage dont nous retenons en premier lieu le fait que c'est vraiment la ligne familiale qui importe à cette femme. Et puis, c'est à travers les grands-parents, elle remonte jusqu'aux grands-parents qu'elle vit l'histoire de la famille et qu'elle vit l'histoire du monde aussi. Et elle nomme ceux qui sont entrés dans la résistance, et c'est un fait, on le retrouve dans plusieurs témoignages, que les républicains espagnols ont beaucoup participé à la résistance. Elle note aussi que son enfance, jusqu'à l'âge de 6 ans, où elle se trouve à Sarcelles avec sa femme, avec ses parents, eh bien, elle a été pas mal chahutée. C'est une enfant. Elle ne le dit pas trop, mais on l'entend quand elle dit qu'elle va de ville en ville et qu'heureusement qu'il y a Bordeaux-Neuve comme lieu avec les grands-parents d'accueil et un lieu stable pour cet enfant. Et puis, on voit aussi la filiation, c'est important ça. Le père, il était républicain espagnol, il était déjà instituteur, et bien il est redevenu instituteur et il a été influencé par la pédagogie Freidé, qui était une pédagogie communiste. Il faut faire un commentaire particulier pour ce qu'elle dit de la Palestine. Elle a toujours été sensible à la justice faite au peuple palestinien, mais elle note le fait qu'elle a eu une grand-mère qui était athée et qui était contre l'État d'Israël. Alors vous voyez que ces familles sont extrêmement fracturées et elle semble en avoir souffert, mais en tout cas avoir bien pris le parti de sa grand-mère. On va maintenant passer à un autre témoignage. Il faut noter aussi quand est-ce qu'elle a été rattrapée par la guerre d'Espagne. C'est en 82, parce qu'elle est allée à Argelès et qu'elle a découvert les camps d'Argelès. Moi, j'ai été à Argelès pour les vacances, hein, dans le sable. Je ne me doutais pas du tout de ce que ça avait été. Et c'est là qu'elle a décidé de conserver une mémoire et elle a fondé une bibliothèque. Et puis, vous savez quel a été le reste de son parcours. Excusez-moi donc pour cet oubli. Et Et voyons maintenant ce qu'a fait Jacques Toskelas. Je le présente rapidement. Il faut dire, je fais une parenthèse là, que le livre est extrêmement complet. Non seulement il donne les témoignages, mais de tous ceux qui ont témoigné, il y a un chapitre particulier où on dit ce qu'ils sont devenus maintenant. Et donc, avant de présenter le témoignage, eh bien, quelques mots sur ce Jacques Toskelas. Il est né à Saint-Alban-sur-Limagnole, en Lozère. Son père était un ancien responsable des services de l'armée populaire de la République et il avait été recruté comme aide-infirmier. Aide-infirmier était psychiatre. Lui-même psychiatre des hôpitaux publics, il a entrepris de rassembler et d'éditer les œuvres complètes de son père, Francisco Toskelas. Alors le père, c'est Francisco et le fils, c'est Jacques. Et Francisco s'appelle Toskel et lui, il a voulu se faire appeler Toskelas. On verra pourquoi par la suite. Et son grand travail sur son père a un titre que je vous livre avec plaisir. Francesco Toskel, sévice constitutionnel, psychiatre, catalan et marxiste. C'est un beau titre, ça fait plaisir. Et maintenant, il titre son témoignage « La guerre d'Espagne, vue par une personne dite de la seconde génération », page 259. Alors là, citations au début.
Ouais, ça commence avec une citation. « Quand on est mort, on est mort ». C'est une citation de Steve Tezich, qui est une citation littéraire. Donc, quand on est mort, mais tant qu'on existe dans la conscience de quelqu'un, on conserve son identité. Le destin de l'être humain est d'être oublié. Le corps est une bibliothèque où on met des paroles des uns et des autres. Les choses qui sont mises à l'intérieur commencent à discuter entre elles. Le sujet est toujours un exilé d'un amour impossible, celui qui l'engloutirait dans le désir maternel. La vérité, me semble-t-il, encore une fois, a perdu le pouvoir, du moins le pouvoir qu'elle avait de décrire la condition humaine. Maintenant, ce sont les mensonges que nous racontons qui seuls peuvent révéler qui nous sommes.
Voilà, quelle humilité pour commencer son témoignage, hein.
On voit quand même que c'est un psychiatre. Hein.
La
guerre d'Espagne vue par une personne. C'est dire d'emblée qu'il ne saurait y avoir qu'une seule guerre d'Espagne. Chaque personne intéressée en a une, en crée une, voire en invente une. Celle que je vais essayer d'articuler est donc singulièrement la mienne, même si j'emprunte évidemment des idées ou des souvenirs parfois développés par d'autres, sans doute déjà recréés et inventés dans leur tentative de mise en récit pour en faire quelque chose qui tienne et qui peut alors se transmettre, le cas échéant, ou qui restera largement tu, comme on le voit par exemple dans le livre d'Alice Zénitaire sur les harkis. Ici, la première génération se tait, douloureusement, peut-être par honte et par rage, vis-à-vis du passé comme du présent et du futur. Ils veulent une vie entière, pas une survie. Et plus que tout, ils ne veulent plus avoir à dire merci pour les miettes qui leur sont données. Voilà, c'est ce qu'ils ont eu jusqu'ici. Une vie en miettes. Bon, la deuxième choisit de se taire aussi pour d'autres raisons, dont celle de ne pas blesser leur père, de sortir du camp en tentant de trouver une identité et de devenir français à part entière. Ils cherchent à récupérer tous les morceaux d'enfance que la guerre leur a volés. Et la troisième tente d'en dire quelque chose d'une façon fort curieuse. Ce n'est pas avec une volonté de base plus ou moins farouche de retrouver l'histoire de ses ancêtres et d'en faire un récit, mais plus une nécessité qui apparaît comme par hasard à l'occasion d'une autre recherche. Mais le fait que cette recherche se passe dans le pays d'origine laisse bien entendu un doute sur le hasard. Encore un tour de l'inconscient.
Voilà, on voit bien le psychiatre là. Et maintenant, l'occasion qui rappelle, c'est une réunion à Marseille qui a été pour le moins agitée.
Alors en fait, c'était une discussion en 1968 à la faculté des sciences de Marseille, lors des discussions qui ont suivi la projection du film de Frédéric Rossif, Mourir à Madrid. La certitude que là se reproduisaient dans des formes identiques les mêmes conflits, les mêmes oppositions non élaborées qui avaient conduit en partie à la défaite de la République espagnole. La guerre civile d'Espagne, pour tout ce qui est de l'intérieur du camp républicain, se déroulait encore devant mes yeux et mes oreilles. Se rejouait et se déployait à nouveau la guerre entre les communistes, doit-on dire les staliniens, ceux qui étaient rattachés à la Troisième Internationale et les autres, les trotskistes par exemple, le PSUC et le PUM, les anarchistes, les socialistes, ceux de gauche comme ceux du centre ou de la droite, les catalans nationalistes, etc. Les seuls qui ne participaient pas à ces débats, c'étaient les fascistes franquistes, bien entendu, pourtant l'ennemi principal. Heureusement qu'il n'y avait pas de possibilité de passage à l'acte de commissaire politique en mal d'action, se trompant d'ennemi.
Il note que les franquistes n'étaient pas là et que pourtant c'était avec eux qu'il fallait débattre de la question. On voit là bien le point de vue du psychiatre et on voit qu'il est de cette troisième génération qu'il nous a présentée, c'est-à-dire que le besoin d'écrire sur son père est venu parallèlement ou comme une voie de traverse plutôt à une recherche qu'il faisait en psychiatrie puisqu'il était adepte des groupes Balint et il veut pas que ce soit un souci intellectuel. Il y a eu la guerre d'Espagne, c'est important, on l'a pas vu, il faut qu'on y revienne, soit pour des raisons familiales, soit pour des raisons politiques. Lui, c'est pas ça, c'est venu tout seul, on dirait. On voit bien que c'est le psychiatre là qui parle et il est désolé de voir que le conflit qui a été peut-être très la cause, il dit, c'est pas la seule de la chute de la défaite de la guerre des républicains espagnols dans la guerre d'Espagne, c'est cette opposition entre le parti communiste et les autres. Et le boucher d'Albacete, c'était le quartier général des républicains espagnols. Et celui qui était là était un communiste qui avait été chargé par la Troisième Internationale de s'occuper des questions étrangères et qui a massacré tous ceux qui n'étaient pas communistes. Il dit stalinien, mais il fait bien attention à remarquer de faire la différence. Et donc c'est là que il prend parti, plutôt il ne prend pas parti, et il dit qu'il a toujours été pris entre deux feux, parce qu'il y avait son père qui était communiste et lui qui était plutôt anarchiste. Et son père, pendant la guerre, a créé une communauté thérapeutique pendant la guerre d'Espagne. Et après après la victoire de Franco en France, après la victoire de Franco, il arrive à passer en France et il est mort en 94. Mais voyons bien le trajet de Tosquelas. Mm-hmm. Il va faire des études de médecine.
Oui, alors pour en venir à l'imagination des enfants de la seconde génération au sujet de la guerre d'Espagne, j'indiquerai d'abord deux points préalables. Le premier concerne la question du nom. Pendant de nombreuses années, je m'appelais Tosquel, comme tout le monde, et je n'avais bien entendu aucun doute sur la question. Sans doute n'avais-je pas réellement regardé ma carte d'identité qui mentionnait bien le nom de Tosquelas. Mais lorsque j'ai eu à passer ma thèse de médecine, j'ai dû faire naturellement un dossier et je me suis trouvée avec des noms très différents. J'avais des documents Tosquelas, d'autres Tosquel, et même Tosquel Laurado, qui était le nom de mon père. J'ai dû régulariser les choses en prenant le nom qui était inscrit à la mairie et sur les documents de naturalisation, à savoir Tosquelas. J'ai dû m'habituer à cette nouvelle prononciation. Mon père, François Tosquel, qui savait quelque chose de cette affaire et qui tenait à continuer à s'appeler Tosquel, s'est quelque peu moqué de moi, parfois publiquement, en m'appelant « Monsieur Tosquelas », avec une insistance désagréable, presque humiliante. Finalement, il me dira qu'effectivement, il s'appelle aussi Tosquelas, comme son père, et qu'ils avaient fait ensemble des démarches pour modifier leur nom patronymique en Tosquel, et que ça avait été refusé par l'administration de l'époque. Il s'agissait de faire retour à la langue catalane et de s'opposer à l'espagnolisation à outrance qui avait été entreprise par les Castillans. Décret de la Nueva Planta, désirant liquider la langue et la culture catalane.
À remarquer, hein, il ne le dit pas vraiment, mais les relations entre le père et le fils n'ont pas dû être commodes tous les jours, parce que le père n'était pas commode, mais à mon avis, le fils non plus. Et il lui reproche de vouloir s'appeler Toscanas, mais lui, il y tient. Le second point qu'il relate, c'est celui de la langue.
Oui, le deuxième point concerne donc la langue. D'abord, celle parlée à la maison, c'est-à-dire aussi celle, ou celle au pluriel, qui n'était pas parlée. Arrivés en France, les parents ont décidé de ne plus parler espagnol ni catalan. C'était, diront-ils, parce que le bilinguisme ou le trilinguisme était mauvais pour les enfants. Argument qui ne tient pas la route quand on sait que le projet largement avancé était de partir ensuite au Mexique, où l'espagnol est quand même la langue officielle. Ce projet sera abandonné quelques années après pour des raisons compliquées. Argument qui ne tient pas la route non plus, parce que tous les gamins du village parlaient deux langues. Le français, bien sûr, se l'autorisait publiquement à l'école et dans la rue, et le patois, reste de la langue d'oc, qui se parlait couramment à la maison entre les membres des familles et aussi avec les vaches. Ces gamins n'étaient finalement pas plus cons que les gamins d'origine espagnole. La vraie raison tient sans doute à la problématique du deuil concernant la perte de la guerre civile et la perte de la terre d'origine. Pour aller dans ce sens, il faut savoir que mon père, dès son arrivée, a décidé aussi de ne plus mettre de cravate. À sa place, il arborait un cordon noir. Il remettra une cravate juste après que le dirigeant de l'Institut Pere Mata vienne lui proposer de revenir à l'Institut pour y jouer un rôle majeur de rénovation. Comme si la route se trouvait bouclée. En tout cas, cette histoire de la langue a fait que les enfants, sauf sans doute Marie-Rose qui parlait déjà espagnol et catalan avant sa retirada, n'ont pas appris ces langues. Ils n'ont eu que le choix de parler français, dont le modèle dans le village était largement infiltré par le patois, et à la maison donc une langue bizarre, un mélange de français et d'espagnol, voire de catalan, langue très personnelle qui sera largement entretenue par le François Tosquel toute sa vie. Mais, lorsque la colère le prenait, les jurons ibériques ne pouvaient bien évidemment plus être retenus. Ce qui nous a permis de posséder ces jurons très rapidement et de pouvoir en faire usage.
Un autre souvenir très important, c'est celui de ses professeurs à l'école primaire, une femme d'abord, et puis le mari qui est devenu professeur et qui l'a même hébergé chez lui, il s'appelait Horace, et il n'était pas de même opinion sur la guerre d'Espagne que son père. Alors on voit ça à la page 270, les deux pères, comme il les appelle.
Chose curieuse, Horace, tout comme mon père, n'évoquait publiquement la guerre d'Espagne que très peu. On peut même dire que régnait le silence à ce sujet. Autant pour leurs anecdotes de vie et pour les histoires, que pour le mouvement en général de la guerre, de la révolution, etc. Pas de photos non plus, ou presque pas, souvent sans identification précise. Pourtant, la guerre d'Espagne devint quelque peu mon affaire, et curieusement avec du son et des images déjà. Et ce sont par les livres et les divers films que j'ai pu lire et voir qu'elle s'est trouvée confirmée à cette place. Elle était mienne avant même que j'en sache quelque chose. Certes, j'avais versé quelques larmes en voyant le film « Pour qui sonne le glas », l'adaptation du livre d'Hemingway, et j'en verse toujours malgré son horrible colorisation. J'ai aussi la vision fascinante des images fantastiques de la longue descente de la montagne de Teruel, des blessés et des morts, sur un chemin escarpé, dans le film « L'espoir » d'André Malraux, aidé par la foule des habitants de la ville. Quelques chants révolutionnaires, ou plutôt républicains, que j'appréciais fort. Il y avait, à mon avis, peu de livres dans la bibliothèque de mon père, pourtant fort étoffé, sur la guerre d'Espagne. Quand même, une collection sur l'histoire d'Espagne en espagnol et une autre sur l'histoire de Catalogne en catalan. Collection que je n'ai pas lue, ni même parcourue par curiosité. Pas plus chez Horace. Enfant, je n'ai jamais ressenti d'animosité ou de moquerie de la part de mes copains de village ou de lycée. J'étais non pas perçu comme français, j'étais français. C'était simple et évident. Par exemple, jamais entendu à mon sujet ou au sujet de ma famille le qualificatif d'espingouin. J'ai pu l'utiliser moi-même parfois, dans certaines conditions, en m'y incluant, bien entendu, mais je ne l'ai jamais entendu de la part d'autres personnes et jamais avec une ironie malveillante. Mais en même temps, je n'étais pas paysan du village au même titre que mes copains, même si je les fréquentais beaucoup. Et en tout cas, la guerre d'Espagne est entrée en moi avec le silence de mes pères, malgré ou à cause de lui. Et plus encore, elle était là d'emblée, sans même y être entrée.
Voilà, on va mettre de la musique. J'ai oublié dans l'intérêt du récit, avant d'entendre la conclusion que fait tout de même Jacques Tosquel sur ce grand problème qui a heurté si fort les militants et après surtout les massacres. Galère.
Los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar, mientras quieren milicianos, los moros no pasarán. Mientras quieren milicianos, los moros no pasarán. No pasarán, no pasarán. Que me tiré en el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. No pasarán, no pasarán.
Non pas arabes, mais hélas, ils ont passé. Et c'est de cette violente opposition et ce violent massacre par les communistes staliniens, de tous ceux qui n'étaient pas communistes, anarchistes, socialistes, le Poum, etc., qu'il va tout de même s'efforcer, d'une façon un peu embarrassée, vous allez voir, de dire ce qu'il pense.
Il ne fait aucun doute que c'est relativement récemment que j'ai pris une position claire sur la guerre fratricide entre les républicains. Quand je suis arrivée à Marseille pour mes études de médecine, mes parents étaient logés à l'hôpital de la Timone où mon père avait été nommé médecin-chef pendant un an. J'ai adhéré au Parti communiste et à l'Union des étudiants communistes. Et j'ai bien vu que mon père me faisait la tête, mais sans plus. Pas d'explication, en tout cas, pour éviter une question déchirante ou sans doute en même temps beaucoup de respect pour mes engagements à moi. J'ai pu même le traîner à une manifestation de rue lors de l'exécution de Julian Grimau par les fascistes. Je dis bien le traîner, car il était pour le moins réticent. Je ne sais plus d'ailleurs si c'est lui qui me dira quelques mots de la carrière de Grimau au sujet de son rôle dans la répression des non-communistes ou si je la lirai dans les livres, dans ceux de Semprun, par exemple, lorsqu'il raconte qu'il avait logé dans le même appartement à Madrid quand il était engagé clandestinement au PCE. Je me suis même demandé si, une fois au courant, j'aurais participé à cette manifestation. Je me trouve souvent là, face à une contradiction et à une certaine gêne. Ainsi, par exemple, quand j'évoque oralement ou par écrit le rôle des communistes espagnols ou celui des brigadistes dans la répression, j'ai l'impression de condamner les militants qui se sont opposés souvent avec courage au mouvement fasciste, de ne pas les reconnaître comme des combattants de la liberté. Je dois toujours m'obliger à corriger mes mots pour me démarquer d'un anticommunisme dit primaire que je ne supporte pas chez les autres et non plus chez moi. Alors, je dis qu'il faut faire une différence entre les dirigeants et la masse, que les masses sont facilement aveuglées. Mais en même temps, ça ne me suffit pas, bien entendu. Je me trouve donc quelque peu divisée, bien que mes choix soient clairs. Certes, c'est une division qui concerne mes deux pères, mais bien au-delà, mes positions. Il reste clair que j'ai largement pris conscience de la catastrophe qui a résulté des positions et des actes des communistes officiels, en Espagne, mais aussi dans de nombreux coins de la planète. Il m'arrive de les positionner comme ennemis principaux avant les fascistes. Mais je sais aussi que ce mouvement risque de faire oublier qui est l'ennemi, risque de me faire confondre les contradictions avec l'ennemi et celles avec le peuple, comme le dira le président Mao Tse-tung.
Voilà la conclusion que fait Jacques Tosquel. Et nous allons maintenant écouter un extrait de la seconde partie du livre. C'est quelqu'un de plus jeune, elle a 35 ans, elle est née en 84. C'est Eva Léger, qui a soutenu une thèse de doctorat en études hispaniques. Et elle a travaillé sur des sources orales et elle réfléchit sur le passage de l'oral à l'écrit et sur le passage d'une certaine optique scientifique à tout à fait une autre optique. Elle a fait un film qui s'appelle « D'Alicante à Tulle » qui a été donné en 2018, qui a été passé en 2018. C'est un documentaire radiophonique. J'ai dit film, je me suis trompée. Documentaire radiophonique qu'elle a fait avec Jacques Darrigo. Et elle s'est intitulée « Une mémoire en exil ». À l'heure actuelle, elle fait des ateliers radio à Limoges pour des primo-arrivants et elle a un grand souci de ce qui se passe en Méditerranée. Et voilà ce qui l'a inspiré. Ça s'est passé le 9 juin 2018 à Tulle.
Donc Eva Léger, du recueil du récit au documentaire sur la migration, des mémoires en mouvement. Le 9 juin 2018, l'association Peuple et Culture et l'ONAC de Corrèze organisent à Tulle une diffusion publique du documentaire sonore réalisé en collaboration avec Julien Varigaud, d'Alicante à Tulle, une mémoire en exil. Un titre un peu vague pour un travail fondé sur le récit de Maximo Pastor Müller, fils d'exilé espagnol, pendu à Tulle lors du massacre du 9 juin 1944. Il s'agissait en fait d'un premier travail documentaire. Notre expérience de réalisation commune d'émissions, de jingles, de reportages pour la radio associative Fréquence Paris Pluriel nous a encouragés à explorer plus en profondeur le vaste champ de la création sonore à travers l'écriture, la composition et la réalisation documentaire. C'est en 2013 que j'ai recueilli le récit de Maximo Pastor à Alicante. Il s'était rendu pour la première fois à Tulle en 2011 sur les traces de son père. Mes recherches s'orientaient alors sur les mémoires et identités de l'exil républicain espagnol dans le Limousin. J'ai été mise sur la piste de cet homme et de sa mémoire familiale, tout juste exhumée, à une époque où l'on ne disposait que de très rares informations sur les Espagnols ayant péri au cours du massacre de 1944. Si le point de départ du recueil de la parole de Maximo Pastor se situe là, dans le cadre informatif et réflexif de la recherche scientifique, sa transformation en objet documentaire s'inscrit dans un autre registre dicté par d'autres logiques.
Et elle va revenir sur l'origine du récit de Maximo Pastor et qui, comme tu viens de le lire, s'inscrit dans un autre registre. Et elle le voit comme un point de passage entre le passé et le présent, entre la mémoire et la création artistique.
C'est seulement en 2010 que Maximo Pastor fait une recherche internet sur les traces de la disparition de son père à Tulle 66 ans plus tôt. Il se heurte alors à une réalité bien différente de la légende du père décédé en exil qui circulait au sein de cette famille rouge espagnole d'Alicante. Il découvre que Maximo Pastor, son père, anarchiste espagnol ayant fui la répression franquiste, a été pendu le 9 juin 1944 par les nazis dans la cité corrézienne. Maximo n'a connu son père qu'à travers les lettres de l'exil que celui-ci adressait à sa famille restée en Espagne. Mais en juin 1944, les missives ont cessé d'arriver. Des mois pour obtenir une réponse de la Croix-Rouge et un verdict qui tombe, froid et distant, Maximo Pastor, son père, est décédé, victime de la barbarie nazie. Maximo, le fils, n'a jamais oublié le cri de sa mère comme une empreinte sonore profonde gravée dans sa mémoire. on imagine qu'il est mort, fusillé ou tué au combat. La légende à demi-mot commence à se façonner avec le temps dans cet espace privé. On en parle rarement, de peur des représailles, mais Maximo Pastor, père, est toujours là, comme l'image floue et secrète d'une figure mythique, exemplaire. Au début des années 2000, près de 30 ans après la mort du dictateur et l'instauration de la monarchie parlementaire en Espagne, une partie de la société civile revendique le droit d'en savoir plus sur le passé de la guerre et de la répression franquiste. Blanca, la belle-fille de Maximo, décide de lever le tabou qui pèse sur la famille Pastor. Elle incite Maximo, fils, à regarder sur Internet les circonstances du drame de Tulle et la mort de son père. Il découvre avec horreur l'ampleur du massacre perpétré par les SS de la division Das Reich. Au petit matin du 9 juin, les hommes de la ville avaient été réunis dans la manufacture d'armes et après un tri préalable, 99 d'entre eux pendus au balcon et réverbères, 149 autres déportés dans les camps de la mort. Maximo trouve le nom de son père parmi la liste des pendus. Après le choc, il choisit de se concentrer justement sur cette liste. Son père, supplicié, massacré, enterré à la hâte dans la décharge publique après le massacre, a, ensuite, après la libération, été inhumé dignement, puis commémoré, au même titre que les autres victimes du drame. Sans plus attendre, Maximo, fils et sa famille prennent la route pour se rendre à Tulle. En quête de réponse, ils trouvent une oreille bienveillante pour leurs mots teintés de sonorités étrangères. L'envie de connaître les circonstances de la mort du père, le lieu où il a été enterré, les traces de son passage dans la cité, s'efface peu à peu au profit d'un travail plus profond de réparation symbolique. C'est le traitement mémoriel des événements qui referme peu à peu les plaies ouvertes du passé. Donc Maximo, en participant aux commémorations du 9 juin à Tulle, ne rend pas seulement hommage à son père, il célèbre ceux qui se sont battus en France comme en Espagne pour la liberté. L'entrevue avec Maximo avait d'abord été motivée par la recherche de données sur les Espagnols, emportés au cours de deux massacres d'ampleur perpétrés par les nazis en Limousin en 1944 à Tulle et à Oradour-sur-Glane. Au-delà des informations recueillies sur son père, c'est la posture et le discours de Maximo qui ont particulièrement retenu mon attention. Les faits racontés sont devenus secondaires, car plus que l'histoire en elle-même, c'est la relation qu'il entretient avec ce passé, sa manière de le voir, sa façon de le considérer qui m'ont intriguée. Depuis ma place de jeune chercheuse, sensibilisée très tôt à la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, il m'était difficile de concevoir que d'autres aient pu être privés de leur passé récent. J'ai été profondément touchée par la transformation des souvenirs par Maximo, la création poétique d'une figure paternelle, l'usage des objets le reliant à son père pour pallier la confiscation institutionnelle de la mémoire familiale.
Voilà comment on passe d'un point de vue à un autre et il faut souligner le fait que ce Maximo Pastor, eh bien, il y a un autre Maximo Pastor, c'est son père, et lui, il était là le 9 juin à Tulle pour la cérémonie. Il a 80 ans et il était amené par son fils. On voit la transmission en trois générations. Et ce qui a fait évoluer pour faire ce documentaire sonore, la jeune chercheuse sur la Seconde Guerre mondiale et qui, pour finir, est arrivée à orienter sa recherche davantage sur la question mémorielle et sur la création. Elle raconte par exemple comment elle a cherché des voix pour faire parler les différents personnages, Maximo père, Maximo fils, et ceux qui, à Tulle, ont pu les connaître, et la famille en Espagne. Et on voit aussi, c'est un grand intérêt de ce récit, comment les courriers vont de Alicante à Tulle. Maximo père était en Espagne et il a appris que son père était mort. Il a fait cette recherche. Se dessine à nos yeux maintenant, on peut dire, un certain profil de ceux qui ont gardé la mémoire et ceux qui sont interrogés dans l'entretien. Elle dit que l'entretien a énormément d'importance parce que selon comme il est conduit, il peut prendre telle ou telle direction. Et on peut dire qu'il y a un profil des témoignages mémoriels. D'une part, le silence et l'oubli qui est double, celui des parents, la honte, la colère, la rage, et celui des enfants qui ne veulent pas connaître le passé, qui veulent devenir français, s'intégrer. Ensuite, ce désir d'intégration est très fort et on voit au témoignage de ceux qui sont devenus ceux qui parlent qu'ils ont bien réussi leur entrée et en France. Ils sont même, on peut dire, assez bien en place socialement. Je dirais, c'est donc un profil silence longtemps et puis cela ressurgit quand on est justement bien intégré, quand on a fait silence. Il y a un rapport, on dirait, entre le silence et le fait de s'intégrer. Il y a quelque chose qui revient aussi dans nombre de témoignages, c'est la comparaison avec la Shoah, parce qu'il y a eu ce même silence de ceux qui sont revenus des camps de concentration. Enfin, au sujet de Sonia Marzo, j'ai oublié de dire, elle dit que c'est à Argelès qu'elle a vraiment compris ce qui se passait, mais elle a pris conscience de l'importance de la guerre d'Espagne en 68, en manifestant en 68, et donc à verser 68, comme disait Julie Pagis, que nous avons lu ici, c'est un pavé dans leur histoire et il ne faut pas l'oublier. Et l'intérêt du livre est aussi de replacer cette guerre d'Espagne dans tout un tissu mondial et aussi profond, psychologique profond. C'est l'alliance de ces deux approches nous paraît essentielle et nous remercions donc les auteurs d'avoir fait ce travail. Galère, nous allons laisser la place à Gérard pour
le générique.
Je t'ai pas laissé parler.
Here's a song that comes from Tanzania. Malaika.